foi et turbulence.
Bonjour à vous tous qui nous écoutez, avec vous Catherine Aubin pour la prochaine heure. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Foi et Turbulence en formule grande entrevue. Alors voici pour commencer un bref portrait de notre invité riche et profond. Il est d'origine russe. Il est religieux, religieux assomptionniste en terre du Québec depuis plusieurs années, sans pour autant avoir atteint la cinquantaine. Dans la ville de Québec, il est responsable du Centre Culture et Foi Montmartre et très engagé dans les milieux du dialogue interreligieux. Nous serons donc en compagnie de Édouard Chatoff. Vous êtes né dans un petit village, Édouard, de l'Oblast, en Russie, et baptisé enfant dans l'église orthodoxe russe. En 1995, vous êtes diplômé de la faculté d'histoire de l'université de Vladimir et vous vous intéressez au catholicisme. Et vous devenez progressivement un frère et un religieux assomptionniste. Vous allez étudier à Paris, puis à Londres, vous allez prononcer vos vœux solennels, être ordonné prêtre et arriver au Québec. Alors, quel regard ce parcours original vous suggère-t-il sur le passé, le présent, l'avenir, en ces temps un peu ardus pour le christianisme? Quelle est votre espérance? Vos origines façonnent-elles votre vision du monde? Ce sont quelques questions que nous poserons dans la prochaine heure. Merci à vous tous, chers auditeurs, d'être à l'écoute et bonne émission. Édouard Chatoff, bonjour.
Bonjour.
Édouard, prénom de consonance britannique. Chatoff, prénom de consonance russe. Déjà, à travers votre nom et votre prénom, il y a beaucoup de choses qui se disent.
Ça, je ne sais pas du tout, hein, dans le sens que c'est vrai qu'Édouard, c'est le prénom britannique, ce qui peut-être va, dans quelque sorte, orienter mon intérêt pour la culture occidentale de l'Europe de l'Ouest. Et Chatov, c'est russe. Vous savez, il y a un personnage dans le grand roman de Dostoïevski, il y a les démons, un étudiant qui va être assassiné par toute une bande de révolutionnaires. Il a le nom de famille Chatov et bon, j'espère que ça ne va pas m'arriver, hein, en tout cas pas dans l'avenir proche, mais c'est plutôt, oui, la consonance russe, et c'est aussi, ça manifeste, il souligne mon intérêt pour la tradition enracinée dans la spiritualité russe.
Alors vous parlez de spiritualité russe, Édouard Chatoff, donc vous êtes né dans cette Russie, vous êtes né dans cette spiritualité. Comment est-ce que cela vous a forgé, structuré?
Mais il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est que j'étais baptisé quand j'étais petit, et dans l'église orthodoxe russe, où j'étais baptisé avant de devenir catholique à la fin de l'adolescence. Quand on baptise un enfant, donc il reçoit le baptême, la confirmation et la communion. Ce que veut bien dire, c'est que tout le mystère, il est vécu intégralement, et je crois profondément à la présence de Dieu et de l'Esprit Saint dans ma vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'étais baptisé dans une Russie qui était encore communiste.
Nous Donc, sommes dans quelles années?
Nous sommes dans 1973. Donc, c'est encore la Russie communiste, et j'ai vécu mon enfance et mon adolescence dans un pays qui était encore du régime communiste. Ça va aussi façonner la foi, parce que la foi, ça se vit. C'est un peu l'illusion de dire que la foi a disparu, que tout était éliminé. Il faut dire que oui, les chrétiens ont beaucoup souffert et plusieurs ont témoigné jusqu'au don de leur vie pour la foi. Mais la foi était présente, elle est vécue d'une manière discrète, mais tout de même très présente. Et donc, je vais grandir dans une famille qui m'a introduira progressivement dans cette vie de foi sans s'imposer, mais sans non plus la négliger. Ce que donnera quelque chose d'assez étonnant, c'est que Dieu est rentré dans ma vie comme Dieu, parce que je n'ai aucune confusion que Dieu est Dieu, c'est pas mon copain, mais en même temps, Dieu est rentré dans ma vie comme un ami. C'est pour cela peut-être il y a une phrase de l'évangile de Jean qui me touche toujours d'une manière très particulière. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Oui. Donc voilà, dans cette enfance, ça va me marquer de cette simplicité du rapport à Dieu.
Est-ce que vous pourriez nous dire, si c'est pas trop indiscret, dans votre enfance, quelles ont été les personnes qui vous ont le plus transmis cette foi?
Dans mon enfance, d'abord, il y a la transmission de mémoire. Et donc, il y a une personne que je n'ai jamais rencontrée dans ma vie, mais dont j'étais marqué dans ma vie. C'est mon arrière-grand-père, de côté de maman. Et l'arrière-grand-père, il était dans une partie de l'Église orthodoxe qui est assez particulière, ça s'appelle les vieux croyants. C'est une, division, mais il y a aussi une réconciliation au sein de l'Église orthodoxe du XVIIe siècle. Mm-hmm. Il était prêtre dans cette Église.
Oui.
Donc c'est pour cela que je précise cela quand je dis de temps en temps dans le milieu québécois mon arrière-grand-père était prêtre. Ça fait rire plusieurs Québécois ou même les Européens de la tradition latine parce qu'ils disent pardon, il a quitté le ministère ou quoi. Je dis non, il n'a rien quitté parce que dans la tradition byzantine, donc le clergé qui était dans les paroisses pourrait être marié. Et donc, mon arrière-grand-père, il était prêtre. Et ça, d'une manière aussi, ça forgeait une conscience de rapport à Dieu.
Oui.
C'est qu'on peut donner la vie à Dieu. La deuxième personne qui était très présente dans ma vie, c'est ma marraine.
Oui.
Elle était très présente parce que c'est elle qui aussi, par ses responsabilités, fait l'éducation de la foi. Mmh. Et évidemment, mes parents, mon papa et ma maman, qui m'ont transmis peut-être ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est l'amour du parent, chacun à sa manière. Et je préciserai tout de suite que cet amour n'était jamais idéal ou idéalisé.
Bien sûr.
Mais il était toujours vécu dans la simplicité et donc je suis très reconnaissant vis-à-vis donc de ce milieu familial. Oui, et il y a aussi ma grand-mère, dans la maison de laquelle j'ai contemplé aussi plusieurs icônes et qui m'a introduit d'une manière aussi très simple dans la prière.
Donc aussi bien des hommes et des femmes vous ont transmis.
Oui, tout à fait.
Oui.
Tout à fait. Quoique je pense le rôle de la présence des hommes et des femmes ne s'est jamais prononcé de la même manière.
Mm-hmm.
Les femmes peut-être étaient plus expressive, de temps en temps un peu plus émotionnelle. Je ne vais pas revenir aux clichés, hein.
Non.
C'est pas les clichés que je veux dire. Mais il y a cette extériorisation de la foi. Dans la vie des hommes, tels que je rencontrais, il y avait aussi le plus de retenue, peut-être plus d'hésitation, peut-être un peu même plus un peu de lâcheté. Mais ça aussi, ça vous forme quand vous voyez tout cela dans toute la fragilité et vulnérabilité.
Et puis, il y a peut-être une autre façon, il y a peut-être un point aussi qui pour nous, catholiques romains, nous fascine, c'est le rapport que vous avez avec la vision, avec le regard, avec la vue et donc avec les icônes. Vous voyez des choses.
Oui, mais avant de voir les choses, et c'est là il y a comme un renversement de perspective, c'est que nous sommes vus.
Mm-hmm.
L'icône, il y a beaucoup d'intérêt dans le monde, occidental actuellement vis-à-vis de l'icône.
Oui.
L'icône, ce n'est pas d'abord la fenêtre par laquelle nous regardons vers Dieu.
Mm-hmm.
C'est d'abord la fenêtre du ciel par laquelle Dieu vient à notre rencontre.
Mm-hmm.
Et donc, ce qui est extrêmement important quand on regarde, c'est aussi de se laisser regarder. Et vous savez, dans la tradition latine, même dans la liturgie post-conciliaire, il y a ce chant de temps en temps qui est un peu banalisé. « N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ. »
Oui.
c'est précisément ce que manifeste l'iconographie, c'est de dire « laisse-toi regarder sans peur ». Laisse-toi regarder pour d'être aimé, laisse-toi regarder pour être encouragé et faire les pas signifiants dans ta propre vie en compagnie de Dieu qui t'aime. C'est ça l'icône.
Tout à fait. Et je me demande, Édouard Chatoff, si cette structure de se laisser regarder n'a pas aussi façonné tout votre parcours.
Probablement. Là, je pense que vous avez raison, c'est probablement parce que même si je suis assez, extraverti, je suis social, mais ce que me fascine le plus, c'est de vraiment se mettre un peu discret, même si les gens ne croiront pas qu'ils me connaissent que je suis un peu discret, mais c'est de vraiment de vivre paisiblement dans la situation et d'être contemplé par l'autre.
Oui. Alors, vous avez donc toute une partie de votre vie qui est enracinée dans l'orthodoxie, et puis vous allez passer au catholicisme, comme on dit en italien, comme mai. Comment ça s'est fait ?
Mais ça se fait d'une manière un peu aussi inattendue, parce que je n'ai pas prévu dans, disons, vous savez, aujourd'hui on fait des plans de carrière, de vie, il y a des projets familiaux, projets parentaux, projets religieux. Moi, je n'ai pas fait le projet religieux, et je ne pensais pas que je vais devenir catholique, sauf que dans la réflexion sur l'histoire de ma famille, et donc dans cette histoire de tension entre l'Église orthodoxe russe classique et des vieux croyants, je me suis posé la question pourquoi il y a des tensions parmi les croyants et comment on gère ces tensions. Et donc, en étant de formation d'historien, je me suis dit, mais il faut peut-être aller voir là où la tension s'est produite comme une grande déchirure, donc de côté catholique. Et je suis allé voir les catholiques pour discuter, pour essayer de comprendre qu'est-ce que s'est passé, pourquoi il y a cette tension maintenant entre les catholiques et orthodoxes, quelles sont les choses qui nous séparent, mais qui sont aussi les choses qui nous unissent.
Alors, donc, si je comprends bien, Édouard Chatoff, votre première motivation était plutôt une démarche de curiosité historique ?
Non, c'était la curiosité spirituelle.
Spirituelle.
Oui, pas historique, mais elle s'enracinait dans l'histoire, parce que je pense que toute spiritualité, par le fait de traverser l'histoire, elle est enracinée dans l'histoire. Mmh. Et donc, je suis allé voir et j'ai discuté avec un prêtre catholique, qui s'avérait après d'être un assomptionniste, mais surtout au début je ne savais pas du tout. Hein.
Oui.
Et à travers cette discussion, j'ai découvert de plus en plus que je crois exactement la même chose que croient les catholiques romains, et en plus, que dans ma réflexion aussi, même en étant orthodoxe, mais aussi réfléchissant, méditant, priant, la place de l'évêque de Rome et donc de l'articulation un peu de certains nombres de choses dans la liturgie ou dans la prière, je suis aussi complètement à l'aise, et je veux retrouver cette unité qui était déchiré par le schisme. Et donc, le choix comme complètement inattendu, mais en même temps irréfutable, s'installer dans ma conscience, c'est que je devrais faire le pas pour retrouver cette unité avec le siège de Rome. C'est comme ça que je suis devenu catholique.
Irréfutable et inattendu.
Oui.
Oui.
Vous savez, c'est quand il y a une certitude qui s'impose dans votre conscience, ce que vous n'avez pas prévu, et pourtant ça reste vrai, et c'est là il y a comme une tension, une anxiété, une inattendue, une surprise, mais aussi certaines craintes et peurs, parce que pour un Russe, devenir catholique, c'est nier une partie de notre histoire, c'est faire, prendre une posture qui n'est pas toujours très appréciée, et surtout, comment dire aux gens qui m'ont élevé dans la foi, et maintenant, je vais devenir catholique et je ne serai plus orthodoxe. Là, c'était un gros morceau.
Et quel est l'enjeu le plus important ? Est-ce que c'est l'enjeu de votre regard à vous ou du regard de vos proches ?
Ah, mais je pense que c'est là, dans le discernement, il y a deux regards qui doivent se croiser, se discuter, et donc c'est là que le plus inattendu qui s'est produit, parce que je me suis préparé au pire quand j'ai annoncé à mes parents, et donc à mon parent et à ma marraine, que je vais devenir catholique. Et là, ils ont dit tous et toutes, mais Edouard, mais tu dois suivre ta conscience. Mmh. Et là, j'étais comme... en même temps, énormément surpris, mais en même temps, il faut le dire quand même, extrêmement soulagé.
Ah oui.
Et je pense que c'est là que le croisement du regard... Je ne sais pas comment la vie aurait pu tourner si, par exemple, ils ont dit « mais non, c'est inacceptable », ou si moi, j'ai hésité de leur dire. Mais en osant une parole, il y a aussi une parole complètement inattendue qui est venue et qui, en fait, était la parole de libération.
Alors, Edouard Chatoff, on sait aussi par ailleurs, je l'ai présenté au début, vous êtes très engagé dans le dialogue interreligieux. Est-ce que ce que vous venez de raconter, cet épisode quand même qui est assez fondamental dans votre parcours, est-ce que cet épisode est aussi à l'origine de votre ouverture au dialogue interreligieux ?
Je ne sais pas. Pour dire franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui est à l'origine de mon ouverture. Peut-être une chose que habite quelque part au plus profond de mon cœur, que Dieu parle à toute personne. C'est dans l'évangile de Jean, il y a à nouveau cette phrase, la parole de Jésus, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour que celui qui croit en Fils de Dieu soit sauvé. Et je crois profondément que Dieu parle à tout le monde, différemment. À quelqu'un ou à certains, il parle fort. À certains, peut-être, en tout cas dans leur compréhension, tout est clair. Ou d'autres, ils parlent timidement, ou eux, ils entendent timidement. Peut-être certains n'osent pas l'écouter parce que ça leur fait peur. Mais je crois qu'il y a toujours ce lien. Et donc, le chemin de dialogue est toujours ouvert. Et c'est d'ailleurs là était une des raisons pourquoi je suis devenu catholique, parce que ce qui m'a paru très important dans le rôle de successeur du Pierre, donc dans le rôle du pape, c'est que le pape est au service de lien de la charité dans l'unité. C'est-à-dire le pontife romain, c'est le bâtisseur des ponts.
Oui.
Il y a toujours là cette communion qui doit être là. Et c'est peut-être pour cela, et dans le dialogue interreligieux et dans le dialogue œcuménique entre les confessions chrétiennes, j'étais toujours très attentif. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais en même temps, c'est passionnant parce que je pense que c'est là que Dieu nous attend aussi.
Et il me semble aussi que c'est une de vos vocations, de votre appel, de faire des ponts. Parce que déjà, dans votre ordre religieux, les assomptionnistes, c'est un ordre qui fait des ponts.
Oui, tout à fait, parce que nous sommes une congrégation qui est au service de la vérité, dans l'unité et dans la charité. Et donc, il faut faire des ponts. Et c'est pas toujours évident, parce que pour rechercher la vérité, de temps en temps, il y a les recherches douces, de temps en temps, il y a des confrontations. La charité, c'est un chemin de perfectionnement et de l'effort de tous les jours. Et l'unité a toujours à reconstruire. Donc, il y a de quoi faire.
Quand vous organisez, parce que je pense que vous organisez des rencontres ou que vous participez à des rencontres pour le dialogue interreligieux, qu'est-ce qui vous paraît important de faire vibrer ?
Je pense qu'il y a deux choses. C'est que chacun soit entendu tel qu'il est. Et c'est extrêmement important. Mmh. Parce que si on fait le dialogue, ce n'est pas pour être gentil et sympathique que tout le monde est pareil. S'il y a le dialogue de différence, parce que le dialogue interreligieux ou dialogue entre les confessions chrétiennes, c'est parce qu'il y a une différence.
Oui.
Et cette différence, elle est réelle, elle n'est pas imaginaire. Et donc, quand il y a une différence, il faut que nous soyons confiants et à l'aise dire nos différences dans toute simplicité, mais aussi peut-être dans toute sa complexité. Et en même temps, il faut croire simultanément, et c'est là comme les assomptionnistes, encore comme assomptionnistes, dans notre règle de vie, je lis toujours très attentivement, Jésus-Christ est plus fort, c'est lui qui nous unit, et il est plus fort de ceux qui nous divisent.
Mm-hmm.
Donc, quand on entend les différences, il ne faut pas faire les crises nerveuses, voilà, on ne va plus jamais dépasser ces séparations, mais il faut aussi entendre au fond de cela que Dieu veut nous unir, donc nous devrons accueillir nos différences, purifier nos différences et aller ensemble sur un chemin. Et ça, ça demande un effort colossal et de la part des autres et surtout de la part de nous-mêmes.
Accueillir ce qui nous réunit, vous avez dit, accueillir
oui.
ce qui est commun,
ce qui nous unit, oui.
ce qui nous unit, exactement. C'est valable pour ce que vous vivez dans le dialogue interreligieux, c'est peut-être aussi valable pour n'importe qui, c'est-à-dire aujourd'hui dans une période un peu difficile avec tout ce que l'on entend au niveau de justement des différences ethniques, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le même enjeu finalement?
Je pense que c'est là il y a le même enjeu. Et c'est précisément, je pense, les croyants ont une vocation particulière. En étant enracinés en Dieu, en étant les chercheurs de Dieu, qui cherchent toujours cette harmonie divine qui sort l'être humain du chaos, c'est de se mettre au service de dialogue et par tous les moyens créer les lieux, créer les places, créer des espaces où cette rencontre en dialogue et pas dans le combat qui vaincre qui soit possible. Et ça, c'est un défi. Et c'est le défi qui est valable pour tous les êtres humains. Mais c'est peut-être là que les croyants ont un rôle à jouer. Non pas dire « nous détenons la vérité », parce que la vérité, personne ne la détient, dans,
oui.
en tout cas. Elle se révèle, la vérité. Mais pas dire « laissons la place pour que la vérité entière puisse nous advenir ».
Est-ce que finalement, dans cette recherche de ce qui nous unit et réunit, c'est pas là aussi le fondement d'une forme d'espérance ?
Je pense que c'est une forme d'espérance parce que, vous savez, l'espérance, c'est ce qui s'oppose au pessimisme et au fatalisme du monde, de dire que, en fait, cette vie n'a pas de sens. De toute manière, on ne va jamais résoudre les conflits, ce que revient dire que les ténèbres vont nous engloutir. Et en fait, l'espérance, elle habite le cœur humain parce qu'à l'intérieur de l'être humain, il y a ce qui résiste aux ténèbres et au néant. Et ce quelque chose qui résiste, c'est l'image de Dieu qui existe en chacun et chacune de l'être des êtres humains.
Dans ce parcours que vous nous dites, que vous nous expliquez finalement à travers ce que vous êtes en train de partager, Édouard Chertoff, il y a des personnalités qui vous ont marqué.
Oui.
Des personnalités sans doute pleines d'espérance.
Ah oui, plein d'espérance, mais aussi plein de complexité. Hein?
Oui.
Plein de complexité. Il y a des hommes qui m'ont marqué. C'est comme Père Lustiger, l'archevêque de Paris, comme Ron Williams, comme un moine à la Trappe de Soligny qui est toujours présent dans ma vie, dans la prière, qui m'a accompagné pendant des années. Il y a aussi les femmes qui m'ont marqué. Parmi ces femmes, sœur Marie-Eugénie de Jésus, la fondatrice des religieuses de l'Assomption, qui est décédée, mais qui est toujours présente dans mon cœur. Il y a une religieuse anglicane qui m'a marqué quand j'étais à Londres, sœur Elizabeth Ann. Nous avions eu les discussions passionnantes et les prières aussi passionnantes ensemble. Je dois dire aussi, il y a sœur Catherine Aubin qui m'a marqué par ses livres et ses réflexions. C'est pas pour vous faire plaisir que je le dis, pas pour l'embarrasser, mais c'est ça la vérité de la vie.
Ce que j'aimerais vous entendre dire, Édouard, ou expliquer, c'est comment cette réflexion sur l'espérance a-t-elle été façonnée par toutes ces rencontres? Parce que le père Lustiger, celui de anglais, c'est quand même des grands personnages qui vous ont que vous avez rencontrés et qui vous ont rencontrés.
Oui, en fait, la rencontre de toutes ces personnes, c'est la grâce de Dieu.
Oui.
Parce que je n'ai pas prévu rencontrer toutes ces personnes. Vous savez, quand je suis venu à Paris, je n'ai pas dit, ah tiens, hein, il faut que je rencontre à tout prix l'archevêque de Paris, ou quand j'étais à Londres. C'était vraiment le fait de la grâce et de l'écoute de du moment présent. Par exemple, quand je suis allé à Notre-Dame de Paris et je suis allé à une conférence de carême, j'étais mécontent, profondément choqué par une phrase d'un grand prédicateur parisien. Et parce que les conférences de Notre-Dame sont approuvées par l'archevêque de Paris, c'est vrai que c'est une personne qui est déjà, j'ai déjà connaissée, j'ai pris ma plume et j'ai écrit un petit mot pour lui demander comment ça se fait qu'une telle chose était dite. Et j'ai reçu la réponse qui me proposait aussi de venir et parler sur le sujet. Et c'est comme ça que le lien avec Père Lustiger était créé. C'est lui qui a créé le lien. C'est pas moi qui a créé le lien. Même il y avait une partie qui dépendait de moi. Quand j'étais en Angleterre, je suis allé régulièrement prier à l'abbaye de Westminster, donc l'abbaye anglicane, mais dans cette abbaye anglicane, il y a mon saint patron, saint Édouard, qui est enterré. Et donc je suis allé prier régulièrement. Et en ce moment précis de ma vie, je devrais changer l'accompagnateur spirituel parce que le précédent était trop loin. Et je réfléchissais beaucoup. Et lors d'un office, voilà l'archevêque de Canterbury qui est venu. Et pendant qu'il donnait son sermon, j'ai réalisé que c'est lui que je veux avoir comme l'accompagnateur spirituel. Et alors, je me suis dit, mais ça va pas la tête. On ne dit pas à l'archevêque de Canterbury et qu'on veut l'avoir. Sauf qu'il disait au revoir à tout le monde en sortant de l'abbaye. Et quand je suis arrivé devant lui, je lui dis, est-ce que vous accepteriez? Il a dit, appelez ma secrétaire et on en parlera. Après, il y avait un parcours un peu compliqué, parce que vous devinez bien qu'il avait l'agenda de l'archevêque de Canterbury, la tête de l'église anglicane, après la reine, mais la suite de circonstances, je pense, de la grâce de Dieu a fait que finalement on s'est retrouvé dans cette position et il était mon accompagnateur pendant quelques années.
Merci Édouard. On poursuit cette discussion autour de votre parcours après une courte pause musicale où nous allons entendre un extrait du Messie de Handel, We Shall Purify. Au retour, on continuera de se nourrir en vous écoutant, nous partager votre vision du monde. À tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence sur les ondes de Radio VM, Catherine Aubin au micro, en compagnie de Édouard Chatoff, religieux, assomptionniste, responsable du Centre Culture et Foi Montmartre à Québec. Tout à l'heure, frère Édouard Chatoff, vous nous avez parlé de vos rencontres, des rencontres pleines d'espérance qui ont nourri et votre foi et votre espérance. Et il y a aussi d'autres choses qui ont nourri peut-être d'autres aspects de votre vie, à savoir que quand, avant d'arriver au Québec, vous avez reçu trois cadeaux, un livre de poésie, le film « Jésus de Montréal » et les chansons de Leonard Cohen. Comment les avez-vous intégrées dans votre enracinement au Québec ?
Ah, ça c'est une question complexe. Je ne sais pas est-ce que je vais répondre et je ne sais pas est-ce que comment les intégrer jusqu'au présent, mais en guise de laisser de réponse, disons une esquisse. La première chose, c'est que les chansons de Leonard Cohen, ce que il est visible que tout être humain est spirituel. Et c'est là que même dans un monde sécularisé, dans une culture sécularisée, il y a toujours cette part de l'Esprit Saint de Dieu qui plane.
Oui.
Et qui tire ce monde du chaos vers une harmonie d'organisation. Ça ne veut pas dire l'uniformité, ce qu'on confond assez souvent. Et donc là, c'est peut-être cela. Au-delà de toute tradition religieuse, au-delà même de l'appartenance sociale, raciale, linguistique et tout le reste. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Deuxième chose, le film « Jésus de Montréal », c'est que grâce à ce film, j'ai compris une chose qui s'avère plus que vraie, que la relation de l'Église avec la société québécoise, c'est une histoire complexe, pleine de grâce, mais aussi l'histoire douloureuse.
Oui.
Ou comme disait Jacques Chirac à propos de la relation entre France, la France et l'Angleterre, c'est un amour violent. Voilà, l'histoire de l'Église au Québec, c'est une histoire d'un amour violent avec les blessures, les déchirures, les mémoires tordues ou blessées, et aussi les choses qui ne sont pas encore dépassées jusqu'au présent. Et ça, vous savez, ce qui est très beau dans ce film, c'est les petits clins d'œil qui fait par ici ou par là.
Oui.
Donc, ça c'est ce qui m'a marqué.
Est-ce que vous l'avez vu plusieurs fois, ce film ?
Non, je l'ai vu, quand je dis plusieurs fois, peut-être deux, trois fois. Hein,
et quand vous parlez de clin d'œil, à quoi pensez-vous ?
Mais je pense, par exemple, quand l'acteur là, qui fait Jésus sur le Mont-Royal, il interpelle à la solidarité humaine.
Oui.
Vous savez, lors du partage de multiplication du pain qu'ils reproduisent. Or, et ça montre que c'est pas évident parce que la réaction de la foule est complètement surpris et j'ai presque envie de dire choqué. Or, c'est un passage que tout le monde lit et relit dans l'Église à l'infini.
Oui.
Et il y a une autre scène où ce jeune vient chez le père, et il y a une femme qui sort sur, disons, dans la porte, et on comprend bien qu'elle joue plus ce rôle que le rôle de la ménagère de la maison.
Oui.
Et donc, il y a toutes ces choses qui sont montrées d'une manière discrète, mais en même temps touchante, disons même saisissante. Et donc, c'est quelque chose que personne n'est aveugle, personne n'est stupide. Et en même temps, il y a des bonnes volontés, mais en même temps, il y a des grandes blessures.
Un peu comme si ces grandes blessures empêchaient de voir la surabondance.
Oui, mais je pense aussi on peut voir la surabondance dans les blessures. Je pense à une seule condition, qu'il y a le pardon oui. demander oui. et le pardon accordé.
Oui.
Et là, je pense, c'est là que se situe peut-être un des enjeux ou de défis des chrétiens, peut-être de toute la communauté, certainement de l'hiérarchie, mais plus que hiérarchie ecclésiale, vraiment de chaque chrétien appartenant au corps ecclésial, de voir où sont les blessures étaient faites, où il faut demander pardon, où, et dans ce cas, on peut espérer le pardon accordé. Vous savez, j'étais très saisi par la grande célébration à l'an 2000, de la demande de la pénitence et de qui est exigée par Jean-Paul II.
Oui.
Au-delà de tout ce qu'on peut dire de Jean-Paul II et de cela, je pense qu'il s'est fait critiquer à cause de cette célébration.
Oui.
Demander pardon, pourquoi est-ce qu'on va se frapper à la poitrine à l'infini? Et il a insisté parce qu'il y a des moments où le pardon, la demande du pardon, est la seule possibilité d'ouvrir l'avenir.
Mmh, tout à fait. Et Édouard Chatop, vous êtes religieux.
Oui.
Je suis religieuse. Et donc nous appartenons à un corps. Un
oui.
corps de famille spirituelle, mais aussi à ce corps de l'Église. Et comment peut-on justement être en communion, en solidarité et en conscience de pardon, de demander pardon pour toutes ces blessures qui ont été infligées à une culture?
Mais je pense qu'il y a peut-être plusieurs pas à faire. Le premier, c'est de se retrouver en Dieu. Non pas dans nos illusions de Dieu, mais vraiment en Dieu. Et pour cela, il faut la prière, la cesse de la prière pour purifier nos cerveaux, nos cœurs, nos corps de toutes fausses images de Dieu. Et ce qui veut bien dire de toutes fausses images de nous-mêmes.
Oui.
Et la deuxième chose pour aller vers cette réconciliation, vers la demande du pardon, moi je me souviens toujours d'une phrase qui est attribuée à saint Augustin, quoi qu'on ne sait pas est-ce que c'est lui qui lui dit, hein. C'est « Je veux que tu sois
mmh. ». Je veux
parce
que tu
que
sois.
Je veux que tu sois. C'est-à-dire, je veux que tu adviennes. Parce qu'en général, les mouvements de violence, le mouvement qui inflige les blessures, ils veulent humilier l'autre.
Oui.
Ils veulent être supérieurs à l'autre.
Oui.
Ils veulent dominer ou contrôler l'autre.
Mm-hmm.
Tandis que cette phrase qui dit « je veux que tu sois »,
mm-hmm.
Je veux que tu adviennes.
Mm-hmm.
C'est une phrase de mouvement intérieur spirituel qui veut dire, mais je n'ai pas de contrôle sur toi.
Oui.
Et je ne veux pas de ce contrôle. Je veux que tu adviennes à moi comme une révélation, peut-être au-delà de toutes mes attentes, comme une surprise bonne ou mauvaise. Ça arrive, les mauvaises surprises.
Mm-hmm.
Mais ça va être toi. Et donc, c'est là que je pense. C'est seulement si on vit cela, on est capable, si on fait même de mauvaises choses, demander pardon. Et si quelqu'un qui nous demande pardon véritablement, on le sait, et on ne peut pas le refuser, on va l'accorder. Parce que c'est ça le mouvement de la grâce qui s'opère. Parce que le pardon ouvre une nouvelle page d'histoire qui n'oublie pas ce qui s'est passé, mais qui ouvre un horizon nouveau. Et c'est ça l'espérance, en fait.
Oui. Et je sais aussi, Édouard Chatop, qu'il y a un chant liturgique que vous aimez beaucoup et qui rejoint ce que vous êtes en train de dire. Le Seigneur passe.
Oui.
Entendras-tu l'Esprit de Jésus-Christ? Il creuse en toi la pauvreté pour t'apprendre à prier.
Oui. Oui. Et il y a d'autres strophes qui disent où entendras-tu sa voix?
Entendras-tu
la voix qui purifie, je crois. Voilà. C'est une hymne qui est plein de...
Le Seigneur passe, éteindras-tu l'amour qui purifie? Va
voilà.
tout le fuir ou refuser d'être l'or au creuset? C'est
voilà.
finalement ce que vous êtes en train de dire.
Oui, c'est précisément ça, parce que le Seigneur passe, bon, de temps en temps, grandiosement, hein, mais le plus souvent, calmement, mais qui provoque des renversements gigantesques à nous.
Parce que, en fait, dans votre phrase « je veux que tu sois, je veux que tu adviennes », c'est dire au Seigneur « passe, passe
oui,
dans sa vie ».
Exactement. Et c'est aussi dire à l'autre « passe dans ma vie ». Parce que vous savez, dans notre société, très souvent, l'autre, c'est le moyen d'accomplir nos besoins, nos nécessités, nos désirs. Je dis assez souvent que très souvent, nous voyons les autres parce qu'il faut régler un problème.
Oui.
Parce que vous savez, il faut faire un baptême, il faut arranger un souper, il faut faire cela. Parce que, est-ce qu'on peut trouver le travail? Est-ce que tu peux me présenter à telle personne? Mais la question que quand on dit que l'autre vienne, c'est juste pour que l'autre vienne. Il n'y a rien à régler.
Rien derrière. Oui.
Rien derrière. Il faut juste être là. Et ça, c'est les rencontres les plus difficiles.
Oui.
Parce que, en ces moments-là, quand je dis le plus difficile, en fait, c'est peut-être même les plus faciles, on est juste comme on est et on doit révéler soi comme on est parce que l'autre vient à notre rencontre. Et c'est exigeant, mais en même temps, c'est toujours gratifiant. C'est ça qu'on ne réalise pas. On pense que si on fixe un objectif, on va retirer le bénéfice.
Non.
Mais en fait, le vrai bénéfice vient seulement si l'action est généreuse et gratuite.
Un peu comme l'action de Dieu vis-à-vis de nous.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour cela que si nous voulons redécouvrir notre humanité, il faut vraiment regarder ce Dieu qui vient à nous, spécialement révélé en personne de Jésus-Christ, donc révélé aussi dans les évangiles et dans la vie de plusieurs hommes et femmes qui ont consacré leur vie gratuitement, généreusement, sans aucune derrière-pensée et sans aucune perversité derrière.
Ô Dieu, tous les cœurs te sont ouverts, toute volonté t'est connue et rien ne te demeure caché. Je te prie, purifie les dispositions de mon cœur par l'ineffable don de ta grâce, de telle sorte que je t'aime parfaitement et que je te loue comme il le faut pour ton être. Cette prière, vous l'aimez, c'est une prière tirée du nuage de l'inconnaissance.
Oui, cette prière, je récite tout le matin et tous les soirs. À cause de raisons toutes simples, ce sera complètement illusoire prétendre que Édouard Chatov, tous les instants de sa vie, est un être accompli, parfait, dans lequel il n'y a pas de malice et qui est vraiment sans sur la terre, qui ne fait jamais du mal. Ça va être vivre dans une illusion totale. Par contre, tout en reconnaissant toute la complexité de mon être, en se confiant à Dieu, précisément cette prière recentre ma vie sur ce qui est essentiel. Il y a des jours où j'ai réussi mieux que d'autres.
Vous dites vous-même que vous avez été élevé dans un rapport contemplatif à la réalité.
Oui.
Expliquez-nous.
Oui, parce que la contemplation, c'est précisément s'asseoir et devenir calme pour entendre le monde qui vit autour de nous. Vous savez, j'aime beaucoup me promener, j'aime beaucoup marcher et écouter le bruit du vent, les feuilles qui, à l'automne, disons, font bruit par terre. De temps en temps, quand je suis dans un jardin, j'aime bien écouter les bourdons ou d'autres oiseaux. En fait, le monde, c'est pas qu'on pense le monde est. Le monde, c'est que advient à nous si nous ouvrons notre cœur à sa présence. Et c'est ça la contemplation pour moi. Et peut-être il y a des chances qu'on ouvre notre cœur dans cet accueil, on sera capable de discerner la présence de Dieu et donc la présence aussi des autres. C'est ça la contemplation, en tout cas pour moi, dans la vie.
Plus on se rapproche de Dieu et plus on se rapproche des autres.
Ah, je pense que c'est tout à fait vrai. Tout à fait vrai.
Est-ce que dans tout ce parcours russe, puis maintenant québécois, la Russie a des origines mystiques, ainsi que le Québec, est-ce que vous avez fait des liens de ces origines très spirituelles de ces deux pays ?
Je ne sais pas est-ce qu'il y a le lien, mais il y a sûrement des ressemblances. Et ce que m'étonne et ou ce que m'inspire, donc je le dis parce que je le fais dans plusieurs pays, parce que quand on vient dans un autre pays, on est ignorant. Littéralement, on est ignorant, même si on a lu des livres et même si on a regardé le documentaire et même si on a parlé avec des gens.
On est ignorant.
On est comme des bébés. Alors, quand je suis arrivé à Québec, pas seulement au Québec, mais à Québec,
oui.
Le premier dimanche, je suis allé au monastère des Ursulines, à la tombe de Marie de l'Incarnation,
oui.
Et j'ai fait la prière. Et alors, je dis, bon, Marie, tu es arrivée ici, tu ne connaissais rien de ce pays, et tu t'es installée, et tu t'es développée. Maintenant, aide-moi à comprendre et vivre dans ce pays selon, disons, la grâce de Dieu. Et après, je suis allé à la basilique cathédrale.
Oui.
Pour faire la même prière à la tombe de Saint-François de Laval.
Oui.
Et c'est là qu'il faut vraiment se mettre dans cette attitude de la rencontre avec l'autre.
Oui.
Et en lisant les écrits spirituels de Saint-François de Laval, en tout cas, il y a des choses merveilleuses, mais il y a une qui me parle particulièrement, c'est-à-dire François de Laval, il dit qu'il faut être très patient. Et surtout, il ne faut pas se mettre en état de colère. Il dit, il ne faut jamais réagir d'une manière brusque. Je pense qu'elle a compris aussi la mentalité du Québec. Elle dit, il ne faut jamais réagir d'une manière brusque parce qu'on peut détruire des années de travail par 5 minutes de l'attitude inappropriée. Et donc, de temps en temps, j'aime bien le relire, ces phrases.
Oui.
Ça m'inspire. Et peut-être aussi, ce que je retrouve chez Marie de l'Incarnation, c'est ce regard contemplatif, large vis-à-vis du monde. Et l'accueil de l'autre, au-delà de toute la différence de race, de culture, de l'éducation, et aussi, par sa vie personnelle, elle a peut-être saisi que c'est pas toujours facile d'être accueilli et être compris parce que tout le monde ne comprend pas ce qu'on fait.
Oui.
Donc il faut se préparer à la même attitude que nous ne comprendrons pas toujours ce que les autres font. L'important, c'est maintenir le dialogue dans l'amitié spirituelle et dans la charité fraternelle.
Un autre aspect de votre vie, Édouard Chatoff, qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'aspect culturel. Vous êtes passionné de peinture,
oui.
De littérature,
oui.
Et ça fait partie intégrale de votre vocation et de votre transmission de la parole.
Oui.
Expliquez-nous.
Ah, mais je pense, je vais dire peut-être quelque chose qui paraîtrait aberrant pour certains. Mais je pense, dans certains cas, les artistes disons, les écrivains, les réalisateurs des films, mais ils saisissent la vérité de Dieu mieux que les théologiens, les philosophes et les penseurs.
Oui.
Et ils réussissent le transmettre d'une manière qui touche d'autres sens que l'intellect.
Oui.
C'est-à-dire le raisonnement purement intellectuel. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et c'est là qu'une peinture, elle peut bouleverser la vie de quelqu'un. Récemment, j'ai participé dans une rencontre où il y a une personne complètement agnostique, incroyante, faisait part d'être saisie
oui.
par la peinture de Caravage à Saint-Louis des Français, à
oui.
Rome,
oui.
L'appel donc de Matthieu.
Oui.
Et cette personne disait... Je ne sais pas, je ne crois pas en Jésus,
oui.
mais cet appel, c'est saisissant. Et chaque fois, quand je vois cette peinture, quand je vais à cette église, en étant un croyant, rappelons-nous toujours,
hein, ah oui.
Je suis saisi.
Mmh.
Et donc, il y a des choses comme ça. Alors, si cette intuition artistique dans la peinture, dans la musique, dans la littérature peut être si saisissante pour tout être humain, je pense que les croyants en particulier doivent prêter l'attention à cela. Et nous ne devons pas négliger cela, pas pour dire « Ah, mais c'est génial et ça parle à tout le monde sans forcément savoir de quoi ça parle. » Je pense que les croyants, et certainement chrétiens, ont la responsabilité d'assurer que tout le monde comprenne mieux de quoi s'agit-il au point de vue de la parole, parce que l'artiste, il ouvre la porte. Il vous présente le menu, mais après, il faut servir le repas.
Oui.
Et c'est pour cela que je suis très attentif à ces choses. Quoique, je dois aussi dire, je n'instrumentalise jamais la peinture ou l'art. Par exemple, à l'abbaye Saint-Benoît-du-Lac, il y a donc cette architecture moderne qui est faite par l'architecte roumain orthodoxe, qui est plein de symbolique. Et il y a une structure que je contemple pendant des heures. C'est les fils suspendus. Il y a deux rangées des fils suspendus au-dessus de l'autel.
Oui.
Et je ne peux pas m'empêcher de penser que ce sont deux sitares, la sitare de Dieu et la sitare de l'être humain, qui sont suspendus pour chanter la prière et le psaume.
C'est magnifique.
Et c'est très beau, c'est très beau. Mais il faut donner du temps. Et je ne suis pas sûr que mon interprétation, c'est l'interprétation de l'architecte.
Mais qu'importe.
Et je ne suis pas sûr que c'est la seule et unique interprétation. Mais ça suscite une interrogation et donc une réponse spirituelle.
Et ce qui me vient en vous entendant, frère Édouard Chatoff, c'est l'incendie qu'il y a lieu maintenant, il y a presque 2 ans, de Notre-Dame de Paris. Et surtout, non pas seulement l'incendie, mais la réaction planétaire face à cet incendie qui est assez surprenante. Comment l'expliquez-vous ?
Moi, j'explique tout simplement par le fait que Notre-Dame de Paris, c'est le symbole, c'est le lieu de la présence de Dieu qui est reconnu par tout le monde, croyant ou non croyant. Et je pense au-delà de l'œuvre d'architecture ou de l'art qui a brûlé, c'est comme la maison de Dieu qui a brûlé. Et c'est pour cela que tout le monde est attentif, parce que tout être humain sait qu'au plus profond de nous, nous sommes habités par la présence de l'invisible, de l'indicible, de l'inconnaissable, de Dieu. Et Notre-Dame, c'est le lieu physique qui disait à tout le monde de cette présence.
Oui.
Et c'est pour cela, je pense, nous sommes toutes et tous touchés par cet incendie. Et c'est pour cela aussi, je pense, tout le monde attend la reconstruction de ce lieu. Parce que personne d'entre nous ne veut croire que l'être humain, comme le lieu de la présence de Dieu, va tomber en ruine sans jamais être reconstruit. Et c'est pour cela, quand je vous ai dit avant, il y a ce que résiste en nous, à cette force du néant et des ténèbres, cette présence en nous de l'image et de ressemblance de Dieu. Je pense Notre-Dame, c'est cela. J'ai aimé beaucoup prier à Notre-Dame de Paris parce que c'est un lieu extrêmement touristique et c'est en même temps le lieu extrêmement intime. Et c'est très difficile à expliquer, mais en même temps, voilà, notre monde, c'est le lieu où tout le monde débarque et tout le monde défile.
Oui.
Et en même temps, ce monde-là, c'est le lieu de la présence intime de Dieu.
Tout à fait. Est-ce que quand on vous écoute, Édouard Chatoff, il y a des thèmes qui reviennent.
Oui.
Et il y a un thème qui est revenu plusieurs fois, c'est le terme du chaos et de l'harmonie. Est-ce que finalement... Un des fils rouges de tout votre parcours, c'est de tenir compte que nous sommes tous les uns et les autres chaotiques, mais qu'il faut aller plus loin que ce chaos pour essayer d'être dans une forme de communion en Dieu.
Oui, mais je pense que nous ne sommes pas peut-être tous et tous un peu chaotiques, quoi, c'est
oui,
vrai.
Oui,
mais
tout à fait.
Nous sommes tous désaccordés.
Oui.
Vous savez, pour qu'il y ait de la belle musique, il faut accorder les instruments.
Oui.
Tous les instruments sont bons, même les plus belles orgues, même les orgues de Notre-Dame de Paris, mais à cause de l'humidité, à cause de plusieurs choses, on ne sonne pas toujours très juste. Et je pense que quelqu'un qui prétendra qu'il est toujours juste, qu'il est toujours magnifique, ça m'inquiète, ces propos-là. Par contre, oui, nous avons tous le désir, la nécessité et aussi la possibilité de sortir de ces attitudes chaotiques, de nous accorder pour jouer une belle musique et de l'être humain et de Dieu, comme je disais, deux sitares suspendus qui jouent en harmonie. Et c'est pour cela, vous avez entièrement raison, ce thème, il revient. Et je pense que c'est peut-être quelque chose que si l'être humain regarde soi-même, comme dit les psaumes, le cœur de l'être humain malade est compliqué. Hein, sauf que l'être humain est bon. Et donc, le cœur malade et compliqué peut être guéri, on peut prendre soin de lui, on peut devenir moins compliqué, ou même en toutes nos complications, on peut rentrer en communion fraternelle, et on peut être heureux ensemble. Voilà le défi de l'être humain.
Merci Édouard Chatoff, merci pour cette rencontre aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes assomptionniste, philosophe aussi, théologien, historien d'origine russe et responsable du Centre Culture et Foi Montmartre à Québec. Et je rappelle aussi qu'un livre est consacré à votre parcours, ça s'appelle « Un pèlerin russe au XXIe siècle », entretien avec Édouard Chatoff aux éditions Médiapôle. Avec vous Catherine Aubin, et qui vous remercie d'avoir été à l'écoute, vous tous nos éditeurs de Radio VM, et vous invite à rester à l'antenne de cette radio. À bientôt.